des carrefours, Barbarie, garde donc ton écu. Barbarie, c'est toi qui l'as voulu. Barbarie, le remède est connu. Dans la rue à Nausée, y avait un assassin qui donna la saignée au galant pèlerin. Barbarie, ce fut accidentel. Barbarie, en sortant de l'hôtel, Barbarie, le péché fut mortel. Dans la rue infernale qui nous mène au sapin, lave-t-on linge.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail desmotsunevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter à Publico, à la librairie, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Émission Des mots, une voix. Et vous pouvez prendre à la librairie Publico la carte d'auditeur pour 20 euros ou un prélèvement de soutien à partir de 8 euros pour nous aider à faire des émissions libres sur le site de Radio Libertaire. Nous sommes ce mois-ci en entretien avec Annie Lebrun, poète et essayiste, pour l'infini... Elle n'aimera pas déjà les étiquettes, poète et essayiste, je suppose. L'infini dans un contour, sorti dans la collection Bouquet en 2023, avec le romancier Stéphane Audguy, pour Histoire d'amour, Paris en 2020, et si nous en avons le temps, Une mère, paru en 2017, sorti tous deux aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Avant de commencer l'émission, j'aimerais que nous engagions un petit débat. Je suis complètement partisan de ne pas séparer la vie de l'œuvre entre guillemets d'un artiste. Stéphane Audguy, nous avons échangé quelques mots sur ce sujet quand je vous ai demandé une biographie pour préparer cette émission. Je vous ai dit que depuis la lecture du Voyage, vers 16-17 ans, ce que j'ai appris plus tard sur Céline, j'avais ce point de vue sur le fait de lier la vie et l'œuvre d'un artiste. Vous interrogez pourquoi. Vous m'aviez dit, la biographie non, la vie entre guillemets oui. Je vais vous répondre. À 16-17 ans, j'avais trouvé le livre comme l'un des plus beaux plaidoyers contre la guerre. Bien des années plus tard, j'ai appris qui était Céline. Et maintenant, je m'en veux n'avoir pas vu la misanthropie, le racisme et l'antisémitisme sous-jacents dans ce livre. Surtout que les mots sont et peuvent être assassins. Vous, Annie Lebrun, dans une conversation privée avec un ami cher dans un café à Saint-Germain-des-Prés, si j'ai bonne mémoire, m'avez dit, comme Stéphane Audguy, que vous ne liez pas la vie et l'œuvre d'un artiste. Pouvez-vous m'expliquer ceci tous deux, que je ne comprends pas comme position.
Ah, alors sur Céline, par exemple, si on parle de Céline, je pense que tout ce qu'il y avait à savoir de gênant dans Céline était déjà dans le Voyage. Et par ailleurs, ça me paraît difficile de faire un procès rétrospectif à Céline, à savoir que ce qu'il a pu écrire par la suite, c'est encore autre chose. Après, moi, je ne me lançais pas dans un débat aussi important que ça. J'écris par rapport à des intensités de vie ou par rapport à des événements, mais profonds de l'existence, et pas du tout en fonction de ma biographie. Ma biographie, néant, quoi. C'est-à-dire, on est né à telle époque, on meurt à telle époque, voilà. Donc je vois pas le... En revanche, je suis sensible, mais même dans mes romans, au thème de la question de vivre sa vie, c'est-à-dire des gens
qui... C'est un thème que vous reprenez, que dans les deux livres que nous parlons, avec votre mère.
Oui, je suis très sensible. Et par exemple, l'idée de faire une biographie de ma mère me paraîtrait baroque. En revanche, essayer de l'évoquer sous les formes de questions de vie, oui, voilà. Après, moi, j'ai aucun intérêt. Enfin, je veux dire, mon moi social, je pense que Proust a dit tout ce qu'il fallait là-dessus. Mon moi social, celui avec lequel je paie mes impôts et j'achète mon pain, ne me paraît pas mériter d'intérêt plus grand que ça.
Il n'y a pas que ça, il y a vos voyages, vos amis.
Mes voyages et mes amis, oui. Je ne sais pas. Peut-être qu'Annie pourrait dire un mot là-dessus aussi.
On dira. Parce qu'on avait parlé une fois avec un ami, je ne citerai pas. Oui. Vous en rappelez ?
Oui, vaguement, oui.
C'était au Bonaparte, le café, pour préciser.
ça me paraît un débat complètement artificiel, parce que, dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les gens, justement, un peu comme Stéphane Audegui l'a dit, c'est que ce qui s'écrit est lié à l'intensité de ce qui est vécu. Donc, de ce fait, pour moi, la vie est indissociable de ce qu'est l'œuvre. Et en particulier, depuis toujours, j'ai été allergique à Céline, ne serait-ce que par sa façon d'écrire. Je ne supporte pas ça. Et je pense que c'est...
C'est une fausse langue populaire.
Pardon ?
C'est une fausse langue populaire, il écrit. Artificielle.
C'est ça, exactement. Donc il y a quelque chose de faux. Dans le fond, ce qui m'intéresse dans ce qu'on appelle la littérature, c'est des gens qui rendent compte de leur vie, mais qui en rendent compte de l'intérieur. Rimbaud n'a parlé que de lui, que de sa vie, que de son rapport au monde. C'est la seule chose qui m'intéresse. Moi, je ne sais pas autrement pourquoi j'écris. J'écris seulement pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, quelle sorte de lien on a ou non avec les êtres, avec les paysages, avec les œuvres. C'est tout. Mais autrement, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ni la littérature, ni la vie. C'est-à-dire, c'est complètement insupportable.
Mais pourtant, vous aviez dit que vous ne liez pas la vie et l'œuvre à ce jour-là, si je m'en rappelle bien. C'était une position, ça, par rapport au sujet.
J'ai dû dire ça parce que pour moi, il y a quelque chose d'indissociable.
C'est ça, quoi. C'est pour ça, plutôt.
C'est
pour ça qu'on ne peut pas lire tout quand la vie est vraiment trop crade, quoi, comme on peut dire vulgairement.
Je ne sais pas comment expliquer, mais autrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ces gens. Et ces gens qui ont des vies complètement différentes de ce qu'ils écrivent, alors c'est en même temps la pire des choses, quoi.
Il y en a ?
La plupart, oui.
Ouais, je ne sais pas trop, ça. Je ne les lis pas. Si vous voulez bien, Stéphane Audegui, nous allons commencer les deux entretiens par celui avec Annie Lebrun.
Très bien.
Annie Lebrun, bonjour. Vous êtes née en Bretagne, cette région de cœur pour moi. Que lisiez-vous enfant quand on découvre la lecture ? Enfant, après on passera à l'adolescence.
Moi j'ai lu les livres qu'on me donnait. les livres d'images. Les livres d'images. Et bon, les contes, les livres d'images. Mais j'ai pas tellement de souvenirs de lecture, à part un livre particulier qu'on m'avait donné, mais qui était un pop-up, c'était La Belle au Bois dormant.
Ah oui, j'y ai parlé une fois.
Oui, c'est ça. Donc, parce que c'était tout d'un coup la liaison profonde entre le livre et l'image. Autrement, j'ai lu ce qu'on m'a donné, mais dans le fond, j'ai beaucoup plus joué que lu. J'ai pas tellement lu, enfant.
Et vous aviez un goût pour l'écrit, pour les cours, l'école ?
Non.
Réfractaire à l'école ?
Non, j'étais pas non. J'étais très, très contente d'apprendre des trucs, justement parce que j'avais été. En plus, j'avais eu la chance que l'école primaire où j'étais, c'était une école qui suivait l'école Freinet.
Vous avez la chance.
Et donc, c'était très. J'aimais beaucoup cette période-là. Après, au lycée, c'était différent. J'ai pas aimé du tout le lycée.
Vous avez quand même eu votre bac.
De ce point de vue-là, parce que quand même ça m'intéressait. De découvrir à chaque fois quelque chose, ça m'intéressait.
Il y a des jeunes qui fuient l'école en ce moment.
Oui, c'est possible.
Ils n'arrivent même pas à passer le bac, quoi.
Oui.
Malheureusement. Aviez-vous une bibliothèque à disposition, familiale ou municipale ? Lisiez-vous tout ce que vous vouliez ? dans le sens, est-ce qu'on vous interdisait des lectures?
Non, on m'a jamais rien interdit. Oui, il y avait une bibliothèque chez moi. Et j'ai lisais, adolescente, j'ai commencé à lire. Et là, j'ai lu vraiment pas mal de choses, même tout ce que je pouvais lire.
Il y avait quoi dans cette bibliothèque comme livre? Quel
chez,
genre?
Chez mes parents, je sais pas, il y avait les classiques, des choses comme ça. Mais bon, après, j'ai lu tout ce que je pouvais lire.
Vous alliez à la bibliothèque municipale?
Oui, et puis bon, oui, et puis à un moment, ma mère avait dit qu'on peut aller dans une librairie, s'il y a des
génial.
Choses qui m'intéressent.
Génial.
Alors ça, c'était formidable.
Bah,
ouais.
Et vous les commandiez ou vous preniez ceux de la librairie?
Je me souviens plus.
D'accord. Et vous, Stéphane Audguy?
C'est-à-dire?
Les livres de jeunesse.
Ah, les livres de jeunesse, moi j'ai lu consciencieusement toutes les bibliothèques roses, vertes et autres.
Ouais, ça aussi, vous aussi.
Ouais,
c'était quoi dans les bibliothèques roses et vertes? C'était quelle série? Est-ce que chacun avait sa série préférée, vous deux?
Mais moi j'ai pas... Je me souviens plutôt de... Je n'aimais pas le Club des Cinq. Je sais même plus pourquoi, ils avaient l'air trop sages, je ne sais pas. Mais non, les livres qui m'ont plus intéressé sont les livres à couverture dorée qui étaient des contes et légendes.
Ah oui.
Voilà, et moi, mon premier contact avec quelque chose qui n'était pas moderne, à l'âge du plastique, j'ai grandi dans les années 60, je pense que oui, les histoires d'héroïsme romain, des histoires de dieux et de déesses, voilà, ça me frappait beaucoup plus, c'est de la mythologie, disons. Que, voilà, après, je crois que j'ai fait comme tout le monde. Hein. Enfin, j'étais vraiment le premier venu. Je n'ai pas eu de lecture particulière. Il n'y avait pas de livre chez moi, ça c'est sûr.
De quel milieu vous étiez issu?
D'un milieu modeste qui n'avait pas de livre. Et donc.
Des policiers peut-être?
Comment?
Des policiers?
Non, non, vous savez, non. Des gens qui avaient arrêté leurs études à 14 ans et qui. N'avait pas d'appétence particulière pour le livre. Mais ça n'a pas, là encore, on m'a construit une étagère quand je suis entré au collège. Et donc, moi, j'ai décidé de remplir cette étagère. Et je l'ai remplie. Donc, du coup, j'ai eu tendance à lire des livres au-dessus de mon âge, mais en raison de l'épaisseur des volumes, parce que je voulais absolument remplir mon étagère. Donc, j'ai lu La vie de Léon Trotsky très jeune, parce qu'elle était grosse. J'aimais bien les livres en deux tomes, Ainsi va toute chair de Samuel Butler. C'était complètement idiot, quoi. Je ne comprenais pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai lu, ouais. Mais je suis un enfant du livre d'occasion en plus. Il n'y avait pas de livre chez moi, donc on achetait des livres dans les solderies, des choses comme ça. C'était très bien. Je me rappelle très bien, j'étais content de mes progrès, non pas en lecture, mais en épaisseur de volume.
Bon, moi aussi, mon père m'a posé une petite étagère en fer, avec deux rayons,
voilà.
Large comme ça. Et je mettais mes livres au fur et à mesure. Parce qu'il n'y avait pas de livres chez moi. Il y avait le dictionnaire et des policiers, c'est tout.
Voilà. Moi, j'avais une encyclopédie du bricolage. Que j'aimais bien, d'ailleurs, que j'ai beaucoup feuilleté. Une encyclopédie du bricolage, c'est formidable. Et trois pauvres romans policiers horribles. Enfin, bêtes. Quoi.
Et vous avez votre bibliothèque, vous, Annie, chez vous, Jeanne? Vous aviez une petite étagère avec vos livres?
Oui, mais c'était pas. J'avais plus que trois rayons.
Oui, enfin
j'avais,
bon.
Oui, mais j'avais dans ma pièce, j'avais déjà.
Moi, j'ai commencé avec trois rayons.
J'avais peut-être quatre rayons. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, ça me plaisait beaucoup d'avoir ça.
Nous allons mettre un morceau de musique. Vous êtes sur Radio Libertaire. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par courrier au 145 rue Amelot, librairie Publico, émission Démo, une voix, 75 0011, Paris. Musique, Erwan.
Saigner était nu à mes pieds. Saigner au visage de mythe et au corps de puma était nu sur la plage. Saigner belle forêt de nacre, savoureuse fleur de massacre, sexe insatiable aux langues de vipères. Saigner au sein des cumes, aux offrandes terrifiantes. Saigner aux odeurs de sauvages. Saigner qui recule à mesure que ma main avance entre tes cuisses ouvertes. Sois toujours ouverte devant moi, Seigneur. Nous irons habiter la maison de ma jeunesse. Ton corps modèlera mon lit perméable, immaculé de ton sang comme autrefois. Seigneur, toi qui avales mon sexe sans quitter le ciel. Seigneur, ta voix résonne dans mes veines. Femme aux pensées verticales, aux orifices vibrants. Je porterai ton corps dans la maison de mon choix, Seigneur. Fauchant les obstacles d'un seul regard de ton saint vengeur. Vois, la maison approche. Ses 9 fenêtres s'ouvrent et se ferment à mesure que je respire. Seigneur, touche ces murs gris. Pousse la porte qui ne se fermera qu'une seule fois pour ne jamais plus s'ouvrir. Comme ma verge t'abîme quand elle te pénètre brutalement. Oh Seigneur, Seigneur qui recule. Tandis que mon sexe avance, j'ai gagné mon pain quotidien, j'ai tué et j'ai vu mourir. Je mourrai à mon tour, Seigneur, sur ton ventre, entre tes seins, entre tes lèvres. Je serai mort, mais je t'aimerai encore. Je te chercherai dans chaque cellule de mon cadavre pourrissant. Je percerai le brouillard qui obscurcit les carreaux. Je mêlerai mon haleine à tes cheveux de plomb. Et je trouverai ton corps de belle indifférente, Seigneur. Car rien ne peut résister à mon amour.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, le troisième dimanche du mois de 15h30 à 17h. Nous recevons ce mois-ci Annie Lebrun et Stéphane Audegui. Nous avons commencé par Annie Lebrun. Je vais continuer mes questions, un peu dans le même genre, mais un peu plus tard. Quels furent les chocs littéraires qui vous ont bouleversé dans votre adolescence, qui vous ont marqué?
Quels furent quoi?
Les chocs littéraires. Là, il y a eu des livres qui ont dû vous importer comme un monde, forcément, vous connaissant. Ou la jeune ou jeune adulte.
Oui, bon, j'ai... J'ai lu Rimbaud. Hein.
Ben voilà, voilà, c'est
et
ça, quoi.
Bon, c'est... Mais parce que justement, et c'est ce qui est intéressant, c'est que des siècles après, ça marche, Rimbaud. Ça veut dire qu'il touche véritablement cette sorte de feu intérieur qu'il y a au moment de l'adolescence et où la société n'a pas encore complètement mis en place tous les étés noirs possibles et qu'il y a... Et ce qui fait que quand on le lit aujourd'hui, et que je pense que des adolescents aujourd'hui le lisent, peuvent être bouleversés parce que, au moment où tout risque de basculer, la lecture de Rimbaud rappelle de quelle passion les uns et les autres sommes habités. Donc, pour moi, Rimbaud a été très important. Ouais.
Il n'y a pas eu d'autres ?
Et après, j'ai lu Nadja. Et
oui.
J'ai pas tellement bien compris, mais j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui m'importait dans ce livre-là. Et puis bon, ça a commencé. Là, j'ai commencé à lire vraiment un peu tout. Et là, je me suis rendu compte que c'était de ce côté-là, du côté de l'affirmation passionnelle qui induit tout le surréalisme, que c'était ça qui m'intéressait.
Il n'y a pas eu un livre que vous avez traduit entièrement, à la main, que vous avez recopié à la main ?
Oui, l'anthologie de l'humour noir de Breton. Bon, après Nadja, j'ai commencé à lire justement ce qui était lié au surréalisme, parce que c'était pas tellement les réponses qui m'importaient, mais c'est qu'il posait des questions qui étaient celles qui m'agitaient, c'est-à-dire comment vivre, qu'est-ce que c'est que l'amour, etc. Donc... Oui, j'ai lu à peu près tout, et justement, comme là, il n'y avait pas... C'était quand même... J'étais dans une province, en Bretagne, à Rennes, donc il n'y avait pas beaucoup de livres, et j'ai trouvé l'anthologie de l'humour noir à la bibliothèque, je l'ai recopié à la main. C'était la même chose pour L'amour fou. Voilà.
C'est pas 100 lignes, c'est 200 000 lignes.
C'est beaucoup.
Oui, ben non, je rigole, mais bon.
C'est beaucoup, mais c'est... Vous savez, comme ça, on connaît bien les livres, après.
Ah bah oui, mm-hmm. Écriviez-vous enfant, adolescent ? Vous avez un peu répondu.
Non, pas vraiment. Non, non.
Vous avez commencé à écrire quand ?
Assez tard.
Vous n'avez pas écrit à la manière d'eux, des poèmes, par exemple ?
Oh, à l'école, oui, pour amuser les autres.
Non, mais pour vous.
Ah non, 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 non. Mais pour amuser les autres, oui, oui, quelquefois au lycée, oui. Quand on s'ennuyait, bon, je faisais des trucs comme ça.
On l'a tous fait, enfin,
bah oui.
Tous les gens qui écrivent
bah oui,
un
oui.
peu, quoi.
Mm-hmm.
Et vous, Stéphane Audguy, vous avez écrit des poèmes jeunes à la manière de...
Pas du tout. Non, non. Mais je... Mais, enfin... Oui, je ne m'intéresse pas directement à la littérature. Je m'intéressais... Enfin, je suis assez d'accord avec Annie Lebrun là-dessus. Je m'intéressais à des intensités qui pouvaient se trouver dans la littérature ou dans des films ou dans... Mais je ne saurais pas vous dire, en vous écoutant, j'essaie de réfléchir au livre qui m'avait marqué. Peut-être Melville, parce qu'il y a chez Melville quelque chose d'une sauvagerie ou de... Voilà, mais... Non, et j'ai pas écrit, moi, du tout. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'ai pas tenu le journal, j'ai pas fait de la manière d'eux, j'ai pas... Je voyais bien, il y avait des littéraires autour de moi. Mais moi, je ne suis pas un littéraire. Hein. Enfin, voilà.
Vous écrivez bien, quand même.
Oh, bah, écoutez, c'est...
Pas bien, pas bien, c'est pas... Vous écrivez très bien, mais je veux dire...
Mais...
Ils sont bons, vos livres.
Ben oui, mais...
Donc, vous n'êtes pas littéraire, mais vous l'êtes quand même.
Non, non, mais non.
Non,
alors,
mais
pour
non,
répondre,
mais...
Votre volonté.
Pour répondre à cette question directement, en allant au fond du problème, c'est la question. Les gens, ah, alors, votre style, comment vous travaillez votre style ? Mais moi, je ne travaille pas mon style.
Non.
J'ai un problème. Donc, j'essaie de me débattre avec ce problème. Et le résultat de ces soubresauts, c'est un livre. Alors, c'est du travail, je ne dis pas. Mais je ne suis pas un rhétoriqueur, je ne suis pas un... Voilà. Moi, je me suis fourvoyé, d'ailleurs, dans ma jeunesse, parce que j'avais... Ça m'apprendra à suivre un conseil de Jean Paulhan. Jean Paulhan donnait comme conseil, prenez un auteur et lisez tout de cet auteur. Et moi, à ce moment-là, je lisais Queneau. Donc, j'ai lu tout Queneau. Et je me suis fourvoyé, littéralement, dans cette voie-là, parce que... parce que je croyais qu'il y avait un aspect technique qui allait être essentiel dans l'écriture, au lieu que, moi, j'ai toujours écrit en fonction d'une espèce de difficulté ou d'impossible ou de... Voilà, ou de questions intéressantes, voilà. Donc moi, j'ai jamais de problème de style, moi. Les problèmes de style, c'est les problèmes de gens qui corrigent des copies, ou de gens qui ou des rhétoriqueurs, ou des gens qui veulent bien écrire, ou qui veulent écrire pour la postérité. Tout ça me paraît très très loin de mon expérience de l'écriture. C'est très gentil de me dire que j'écris bien, mais je me suis jamais assis en disant ça. Ou alors si je l'ai fait, je devais avoir 13 ans et ça n'a rien donné, heureusement.
Ah, donc vous avez quand même fait, alors.
Non.
Oui, mais je me rappelle quand on faisait les petits trucs à la manière de... Bon, c'est pas écrire, ça.
Oui.
Non, mais et puis, oui, les exercices, tout ça est très scolaire, enfin, voilà.
Oui, c'est ça. Et que... Enfin, moi, ça n'existe pas, ça.
Vous avez fait les études de lettres, Annie Lebrun. Vous m'aviez dit une fois à ce micro que vous saviez ce que vous vouliez ne pas faire, mais surtout pas ce que vous vouliez faire. Pourquoi ? Une carrière en italique ne vous intéressait pas, jeune ? Je dis ça ironiquement.
Ben justement, tout est là, quoi. Non, j'ai retrouvé là, dans les choses qui sont publiées, j'ai dit je ne sais pas où je vais, mais je sais que je méprise. Mais peut-être j'ai écrit pour savoir où je vais, c'est tout. C'est pour ça que, bon, les livres, c'est comme ça raconte des parcours, des chemins que j'ai pris, un peu pour savoir où était la... où j'allais, quoi, c'est tout. Non plus, moi, j'ai jamais écrit pour écrire. Hein. Jamais écrit pour faire un livre.
Et comment vous êtes venu à ce que vous avez plein de livres de publier ?
Pardon ?
Comment vous en êtes venu à ce que vous avez plein de livres de publier alors que vous n'avez jamais écrit pour publier ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a eu des hasards qui ont fait que... par exemple, quand j'ai écrit, je me suis intéressée au roman noir et à toute la problématique autour du XVIIIe siècle, de la sensibilité du XVIIIe siècle, je sais que ça vient directement d'une phrase du manifeste du surréalisme de Breton, qui parle des romans noirs, qui oppose les romans noirs, ces sortes de petits livres que tout le monde lit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusque vers 1820, et lui oppose ça à toute la production romanesque. En disant que là, dans ces livres, c'est le désir qui est à l'œuvre, etc. Et à un moment, il y a une phrase, il parle d'une héroïne d'un des romans noirs après, qui est devenu célèbre, qui s'appelle Le Moine de Lewis. Il parle d'une femme et en disant que c'est une tentation à l'état pur. Et si un personnage n'est pas une tentation, qu'est-il ? Alors moi, quand j'ai lu ça vers 18 ans... Je me suis ruée, j'ai voulu trouver ces livres-là où les personnages étaient des tentations à l'état pur. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Bon, et c'est comme ça que j'en suis venue. J'ai eu beaucoup de mal après à découvrir ces romans noirs. J'ai été dans les bibliothèques, parce que c'est en l'occurrence à la Bibliothèque nationale, parce qu'on ne pouvait pas les trouver, pour savoir de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça que je me suis engouffrée dans la nuit qui se manifeste justement à la fin du XVIIIe siècle, et qui a quelque chose de paradoxal, puisque c'est le moment, au contraire, où la philosophie des Lumières est en train de rayonner. Mais aussi, c'est parce que, dans le fond, ça correspondait à cette interrogation sur le désir, à cette interrogation sur la nuit qui nous habite, et qui était la mienne, mais c'est pas pour des raisons littéraires. Et puis après, le hasard a fait que j'ai rencontré Jean-Jacques Pauvert, et qui m'a dit qu'il va publier ça tout de suite. Et les choses se sont enchaînées, mais j'ai jamais fait de livre pour faire des livres.
Vive le hasard, Annie.
Comment ?
Vive le hasard.
Ah oui, pour moi, oui. Et je pense que si j'avais pas été comme ça complètement à côté, je me suis pas tellement ennuyée, hein, dans la vie.
Alors ma question, elle regroupe là, enfin vous pouvez la compléter. Écrire pourquoi ? Et question de temps, pourquoi publier ? Bon, vous avez déjà un peu répondu. Est-ce que vous voulez être lu ? Est-ce que des retours de...
Non, écrire, là j'ai un peu répondu, c'est un peu pour savoir où j'allais, quoi, c'est tout. Donc c'est une sorte... un livre de bord, si on peut dire, à différents épisodes. Autrement, en même temps, il y a quelque chose de complètement aberrant dans le fait d'écrire. Pourquoi ce que vous pensez peut intéresser le reste du monde ? Moi, j'ai toujours eu ça à présent à l'esprit. Mais à partir du moment où vous avez donné forme à quelque chose, à une question qui vous préoccupe, qui vous hante, il y a un désir de se dégager, de se libérer de cette question-là. Et le fait que ça peut être publié, c'est-à-dire que on jette ça comme une bouteille à la mer, à la fois ça vous permet de vous dégager de ce problème-là, de ce questionnement-là, et puis aussi de voir éventuellement comment les autres vont réagir à la façon dont vous avez posé cette question-là.
Que représente pour vous le mouvement surréaliste, Annie Lebrun, et en particulier votre lien avec André Breton ? C'est un mouvement littéraire, pictural, un état d'esprit, une envie de changer le monde, qu'il soit plus heureux, vivable ce monde. C'était quoi ?
Ben là aussi, c'est un peu le hasard, comme toujours. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire des études à l'université, des études de français, j'étais assez catastrophée par le vide devant lequel je me trouvais. Et puis, le hasard a fait que j'ai rencontré des garçons. Il y avait un ou deux garçons qui étaient intéressés par la poésie, qui aussi se tournaient vers le surréalisme comme moi. Et pour la raison, alors que c'était complètement, à ce moment-là, c'était complètement démodé, si je puis dire. C'est-à-dire, dans les années 60, il y avait toute autre chose qui s'était mis en place avec les tels quels, l'écriture textuelle et tout ça, qui ne m'intéressait absolument pas. Excusez-moi, je dois boire. Et bon, le hasard a fait que ce garçon avait écrit à Breton, qui m'a proposé qu'on passe par l'endroit où Breton séjournait en été. Et là, Breton m'a demandé si j'étais à Paris à l'automne. J'ai dit que je ne savais pas, mais que si, il m'a dit que de lui faire signe si je venais à Paris. Mais alors, pourquoi j'étais intéressée par le surréalisme ? C'est parce que justement, que je l'ai dit, c'était dans cet endroit-là, dans ce lieu-là où les questions qui m'importaient autour du désir, autour de l'amour, autour de la passion étaient encore, c'était les seules personnes qui les avaient posées, et que au-delà des réponses, ce qui m'avait intéressé dans le surréalisme, contrairement aux autres avant-gardes et à ceux qui se prétendaient alors avant-garde ou la nouveauté, c'est que là avait été créé un lieu où les uns et les autres, où des personnes tout à fait différentes avaient existé, avaient produit des choses complètement différentes. Et là, cette diversité me fascinait. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose, il n'y avait pas un programme, vous ne deviez pas en passer par... Par des questions de style ou je ne sais quoi, c'est que tout d'un coup, il y avait au départ, quand même, c'est parti d'une révolte fondamentale contre ce qui est. Et tout d'un coup, la rencontre de ces quelques jeunes gens avait fait en sorte qu'un lieu qui n'existait pas jusqu'alors existait tout d'un coup, et où les uns et les autres, où la liberté des uns exaltait la liberté des autres.
C'était dans un café.
Comment ?
C'était dans un café.
Oui, il y avait des rencontres dans un café, mais plus loin que ça, on peut dire que c'est la sorte de métaphore qui singularise complètement le surréalisme par rapport aux autres réunions, aux autres groupes qui avaient des prétentions justement avant-gardistes. C'était un lieu où quelque chose, où chacun pouvait être plus lui-même qu'ailleurs.
D'accord. Maintenant, nous allons passer à parler de L'infini dans un contour de vous, Annie Lebrun, qui vient de sortir dans la collection Bouquins. Je vois que le temps passe. Il me semble que vous n'écrivez que de la poésie, des essais et un peu de critique. Est-ce juste? Et pourquoi n'avez-vous jamais écrit de fiction, de roman, de théâtre ou autre? Je ne suis même pas sûr du tout que ces étiquettes de genre littéraire vous conviennent.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, ça s'est passé comme ça.
Pourquoi pas de fiction, par exemple? Ça vous avez pas envie?
Il y a question, c'est pas que ça, c'est, j'avais pas envie. Ça ne s'est pas... On en revient un peu à la conversation du départ. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de projet littéraire, je n'ai pas décidé de faire quelque chose. C'est plutôt que la vie est telle qu'à un moment, je me suis exprimée d'une façon, et à un autre moment, disons, je suis passée de quelque chose de plus lyrique à quelque chose de plus théorique ou une sorte de critique sociale, parce que tout d'un coup la situation me paraissait irrespirable, c'est tout. Je n'ai jamais eu de projet littéraire. Et même aussi, quand Breton m'a dit de venir, on m'a pas demandé si j'écrivais quelque chose, on m'a pas demandé si je peignais. On a vu que j'étais quelqu'un qui une personne pour qui c'était important que la vie, qu'on essaye de vivre autrement, c'est tout.
Je me doute, vous connaissant, que ce n'est pas vous qui avez sollicité la collection Bouquins pour cet ouvrage, qui regroupe plus d'une dizaine de vos livres. Comment se sont passés, dans quelles conditions, les contacts avec les éditeurs? C'est une idée magnifique. Pour peu de sous, on peut accéder à plein de livres de vous.
Ça s'est un peu fait par hasard, donc tout d'un coup on a pris contact avec moi, et puis bon, donc j'étais très étonnée, moi j'avais pas du tout pensé bien que j'avais rien fait pour ça. Et bon, je me suis dit que c'est peut-être pas mal que si on réunissait un certain nombre de textes, et voilà comment ça s'est fait. Et ce qui m'a importé, c'était de voir que... Alors, c'est quand même à peu près la moitié de ce que j'ai écrit, hein. Il y avait une sorte de calibrage de à peu près autour de 1300 pages. Et bon, donc ce qui m'a importé, c'était qu'il y ait une sorte et qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de cohérence dans tout ça. Et bon, c'est tout.
C'est beaucoup. Annie Lebrun, je crois que vous écrivez en prose ou en vers libre. Avez-vous écrit, comme beaucoup de jeunes, d'être exprimé dans votre adolescence, on l'a déjà posé tout à l'heure, quand on commence à écrire? Vous avez jamais fait d'être exprimé, même plus tard?
Non.
D'accord. Comment se décide l'écriture d'un essai? Je sais que vous avancez à mesure que votre plume vous porte, mais quel est le processus de la naissance d'un essai? Vous avez un mot, un sujet dont vous partez, vous voulez parler, m'avez-vous déjà dit?
Non, c'est que c'est tout d'un coup quand il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est tout. Et de ce fait, mais j'ai pas de projet délibéré, quoi.
Non, mais qu'est-ce qui fait là quand, par exemple, vous avez fait Ce qui n'a pas de prix?
Oui.
Bon, il y avait rien. Comment est née l'idée de ce livre, par exemple?
Par exemple, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus sensible à une sorte d'enlaidissement du monde. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout devient de plus en plus laid? Les objets qu'on nous propose, la ville étant laidie. De quoi il s'agit? Et au fur et à mesure, j'ai, en réfléchissant, je me suis aperçue que, par exemple, tout ce qui était du domaine sensible et du domaine artistique, alors que pendant longtemps, il y avait quand même, c'était encore un lieu... enfin un espace où pouvait où pouvait s'exprimer plus librement qu'ailleurs, que tout d'un coup, à partir des années 90, il y a une sorte de mainmise du capital sur tout le domaine artistique. Et ce qui fait que la production artistique de l'art dit contemporain, de ce qui est maintenant au-devant de la scène, est l'expression directe du capital. Et ça, j'ai trouvé, il m'a semblé que c'était une des raisons de l'enlaidissement du monde, et c'est comme ça que tout s'est enchaîné. Mais c'était pour répondre à une sorte de, à une impression, à une sensation, à quelque chose que l'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable.
Comment se décide l'écriture d'un essai ? Je sais que, ah ben ça je viens de la poser, pour le livre Ombre pour ombre par exemple, comment se déroule la construction de ce livre ? Il y a plusieurs parties avec un titre, le titre vient après ou avant le texte ? À partir de quand vous décidez l'édition de ces écrits ? Ces écrits, c'est un recueil de textes épars, regroupés, ou est-ce tous des textes écrits linéairement ? J'aimerais en savoir beaucoup sur votre processus créatif en italique, cette expression que je n'aime pas trop.
Oui, mais donc là, c'est ombre pour ombre, c'est quand... quand j'avais publié des choses chez Gallimard, il y a un moment... Et surtout que c'était à peu près un moment où j'avais arrêté d'écrire des textes dits lyriques, ou quelque chose comme ça. On m'a proposé éventuellement de réunir ces textes-là. Et à nouveau, ça m'avait... J'étais pas contre, parce que justement, comme ces textes-là étaient venus comme ça, il me semblait que le fait de les réunir allait me montrer quelque chose que j'avais pas vu avant. Pour un peu une sorte de comme une sorte de cartographie ou de constellation que j'avais bien sûr j'avais pas eu l'idée de moi-même de rassembler ces textes lyriques là, mais bon, je me suis rendu compte que c'était quand même que ce qui venait de là, c'était toujours tout partait de là et tout y ramenait quoi.
Et le titre, par exemple, comment vous le trouvez pour Ombre pour Ombre dans les différents chapitres ? Il vient
c'est
avant.
Pas des chapitres, c'est des recueils.
Enfin, les parties, disons. Parce qu'ils ont, c'est quand même des titres qui séparent chaque texte dans Ombre pour Ombre.
Oui, mais c'était des petites publications séparées, vous savez.
Ah non, je ne sais pas ça.
C'est ça. Donc c'est des choses. À chaque fois, la date est indiquée parce que c'était justement quand j'étais. On faisait ces livres, c'était des éditions surréalistes ou quelque chose comme ça, donc c'était pratiquement sans éditeur. Hein. Et bon, donc c'était comme des petits livres. Après, on les a rassemblés. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cet ensemble-là ? Il fallait peut-être un titre, je ne savais pas pourquoi. Oui, j'ai donné un titre au lieu de mettre poésie ou je ne sais pas quoi. Bon, il m'a semblé que ça jouait beaucoup sur la question de l'ombre, de la nuit, etc. Donc c'est venu comme ça. Mais ça vient comme ça, les titres. Hein. Moi, quelquefois, j'ai très peur parce que je ne sais pas quel titre donner à un livre. Mais toujours, au dernier moment, ça s'arrange.
Attaquer le soleil.
Oui.
T'as dit quelque chose ?
Oui. Mais ça, c'est pas moi, c'est ça.
Oui, je sais bien. Ouais. Il y a quelques représentations de dessins, peintures, photographies ou autres dans ce livre. Quelle place, tient dans votre vie l'art pictural, entre guillemets ?
C'est l'image.
Oui, je ne sais pas comment l'appeler.
Oui, c'est l'image. Ce n'est pas seulement l'art, c'est l'image. Et bon, pour moi, c'est essentiel. Et puis surtout que, dans le fond aussi, je m'aperçois que je ne fais pas de différence entre les mots et les images. Et que... Dans le fond, tout ce qui m'a intéressé, c'est ce qui se passe entre les mots et les images. C'est peut-être de ça dont j'ai essayé de rendre compte.
Et vous allez beaucoup aux expositions ?
Dans la mesure du possible, oui. Oui. Mais c'est pas seulement ça. C'est les images, ça peut être ce qu'on voit dans la rue, ça peut être ce qu'on voit en se promenant, ce qu'on voit en voyageant, ce qu'on rêve. Tout ça, c'est pareil. Hein. C'est une forme de nourriture.
Merci, Annie. Nous sommes en retard. Mais bon, c'est intéressant. Vous voulez bien concéder 3 minutes, Stéphane, sans problème ?
Ah oui, moi j'ai participé en écoutant. Je suis très content.
Alors, nous allons mettre un morceau de musique. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter chez Publico, la librairie de la radio, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Émission Démo, une voix. Musique, Erwan. Bonjour, vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation, le troisième dimanche du mois de 15h30 à 17h, sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Après avoir parlé avec Annie Lebrun et la discussion continue entre nous pendant la musique, j'aurais bien aimé que... Vous pouvez un peu dire ce que vous pensez, ce que c'est qu'un essai qu'on discutait entre nous,
mais
Stéphane.
ce qu'on disait tout simplement, c'est je pense que Annie hésite toujours sur les mots à mettre sur les travaux qu'elle fait, notamment, bon, il y a eu quelque chose qui était plus du côté du versant de la poésie, etc. Mais fondamentalement, ce que je disais, c'est que le mot essai, il faut l'entendre vraiment dans son sens plein, dans le sens que lui donnait Montaigne, je pense aussi. Mmh. Un essai, c'est essayer une pensée. La mettre à l'épreuve de quelque chose, et cet essai se développe comme une sorte d'expérience, quoi, d'expérience de... Vous voyez, moi je disais tout à l'heure, moi j'ai pas de problème de style, parce que les problèmes qui m'intéressent sont pas les problèmes littéraires. De même, là, l'essai, il fait l'essai d'une pensée, voilà. Alors après, il va dans l'espace public, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aussi les gens en font quelque chose, des fois très surprenant, mais voilà.
Mais c'est aussi une vérification, le fait de publier. C'est-à-dire vous sortez complètement de votre sphère personnelle. Vous pouvez avoir une petite conception du monde, mais à partir du moment où vous lancez ça dans le monde, ah, on voit si ça fonctionne ou non. C'est ça.
Et les retours, ça compte pour vous deux ?
Oui, oui.
Et pour vous, Stéphane, ça compte les retours ?
Oui, alors le régime de la fiction, c'est différent, j'imagine, mais que les gens fassent des expériences ou tirent des effets de ce que je fais, oui, bien sûr, oui, oui, oui. En ce sens-là, alors j'écris pour personne, mais ça ne veut pas dire que je suis insensible au retour.
C'est pareil qu'on écrit toujours pour une personne.
Oh là là, au sens personnaliste du thème, là.
C'est complètement faux, ça.
Non,
j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, disons, plus tôt.
Oui.
Ben ils ont un premier lecteur, par exemple.
Ah oui, bon, c'est des trucs techniques presque, ça, oui. Non. Moi, je suis d'accord avec Stéphane. Hein.
D'accord.
Non, ouais, voilà, même, enfin, voilà, la phrase la pire pour moi d'un écrivain, c'est « Mes personnages se sont mis à exister tout seuls. » Ah, c'est pas possible. Ils ont couru comme ça sur une petite lande romanesque en poussant des cris. Non, je sais pas, moi, je... Oui, la littérature... On s'adresse à personne... Enfin, pas à personne ou à chacun, je sais pas. Y a quelque chose de profondément individualiste. Enfin, voilà. Si le style, c'est une façon absolument singulière de s'exprimer, ce qui est déjà très prétentieux, mais passons, alors c'est parce que ça va toucher chez les gens quelque chose de singulier chez eux. C'est pas un partage d'expérience, ça va résonner chez eux autrement, et ils vont faire que... Voilà, je sais pas. C'est... En quoi je crois d'ailleurs que c'est une expression démocratique, si j'osais le terme. C'est, partage de, voilà, c'est une expérience sensible qu'on propose aux autres, qu'on propose en eux, non pas ce qu'il y a de dominant chez eux, à leurs opinions personnelles, c'est pour ça. Alors on retombe sur la question de la biographie. Moi, ma biographie n'a aucun intérêt parce que j'écris pas avec mon expérience au sens... biographique du terme. Mais bien entendu que je vis, que j'aime, que je désire, et que tout ça circule, j'espère, dans mes livres. Voilà. Et chaque livre... Alors moi, le roman, Dieu sait que le roman, c'est différent de l'essai. Mais un roman, c'est une tentative. Je sais pas, il y a une boutade de Beckett là-dessus, on va échouer, et puis échouer mieux encore la prochaine fois. Enfin, on va comme ça se... Mais on fait un essai, quoi. Enfin, voilà. C'est une expérience.
Et vous, Annie, le terme d'essai ?
Dans ce sens-là, oui. 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 Et avec le côté bouteille à la mer, hein, c'est ça. Et on ne sait pas quel va être son parcours. Et les choses reviennent comme ça. C'est ça, c'est des grandes, dans le fond, c'est des grandes interrogations.
Où il y a une image chez Nietzsche comme ça, où Nietzsche compare le travail d'un penseur, un penseur prend une flèche, bande son arc, tire, dans la forêt d'ailleurs, plus loin possible, ou loin. Après la flèche tombe quelque part, quelqu'un la ramasse, va l'envoyer dans une autre direction. C'est plutôt à ce genre d'événement-là que pour moi ça renverrait.
Ouais. Ouais.
Donc du coup, par exemple, le à la manière d'eux, ou le pastiche, ou... Non, des fois, je pense qu'on retrouve des problèmes que des écrivains qu'on aime ont eu, mais autrement. Mais on n'imite pas leur style, quoi. On remonte plutôt à leurs problèmes. Dans ce sens-là, moi, je pense être flaubertien un peu. Hein. Ça, que les gens se débrouillent, si ça les amuse de chercher pourquoi. Mais moi, je suis très marqué par Flaubert, mais parce que, je sais pas, un certain problème de la bêtise chez Flaubert m'intéresse encore autrement. Mais alors, je ne crois pas que j'ai essayé d'écrire comme Flaubert une fois, en disant « Ah oui, les fameux imparfaits, non, enfin, voilà. » Ce serait très ennuyeux. Mais il y a des gens qui s'ennuient, peut-être, je ne sais pas, en écrivant. Hein, moi, je ne me suis jamais ennuyé, pour le coup.
Et la question cuisine, comment écrivez-vous, Stéphane Audguy, au bureau, au lit, dans les cafés, à l'ordinateur, à la main? D'un jet, en reprenant beaucoup. Enfin, vous voyez tout ça.
Ah oui, c'est toutes les questions de l'INSEE sur la question.
Voilà, c'est la cuisine.
Tout le QCM. Ne sais pas, il y a une case ne sais pas.
Oui, oui, il y a toujours une case ne sais pas.
Toutes les réponses, mon général. Non, je pense que vraiment, en plus...
Même dans les cafés, par exemple, c'est impossible, ça, dans les cafés.
Ah non, alors, au sens matériel du terme, moi, je... Alors là, encore, c'est de la banalité absolue. Moi, je ne peux pas écouter de musique instrumentale, oui, vocale, non. Il faut choisir sur un bureau, voilà. Je n'écris pas dans les cafés, je n'écris pas je ne sais pas quoi. Après, tout me... Je sais pas, ça m'accompagne, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie, donc c'est pas séparé.
Et par exemple, les phrases, vous les reprenez ou c'est plutôt d'un jet?
Bah oui, je les reprends, oui.
Ça pourrait être d'un jet avec des petites corrections comme
oui,
ça.
Oui, non, j'ai aucun talent, moi, non, je suis pas de talent. Non, je sais pas, on est trop occupé à. Moi, je croyais, enfant, peut-être, alors j'avais des vagues idées littéraires, enfant, mais je me représentais ça comme des problèmes, effectivement, que j'allais avoir de mettre l'adjectif là. Mais c'est pas ça, donc. De même qu'un photographe est nourri par toutes les photos qu'il prend pas, il me semble, par exemple. Il faut pas prendre de photos pour en prendre, on est bien d'accord. Il faut pas toutes les faire, quoi. Sinon, on se met en mode rafale, et puis voilà. De même, je pense que les moments les moins littéraires, entre guillemets, sont peut-être les plus enrichissants. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'enseigne l'histoire du cinéma et des arts. Ça ne va pas de répondre en direct avec mon travail d'écrivain. Mais justement, ça me met en contact d'autres choses. Et moi, si je ne fais pas ce journal... C'est j'aurais peur de me dédoubler comme ça, de me regarder. Alors je sais qu'il y a des expériences de diarrhée très différentes de la mienne, mais moi j'aurais l'impression de m'observer, d'écrire pour la postérité. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Moi je peux pas quoi. Le journal de Gide m'a toujours paru consternant, consternant. Voilà. Mais bon, il y a des voilà, je sais pas. Donc j'écris quand j'écris pas, oui, par exemple, et quand...
À la main, à l'ordinateur?
Oh là, moi j'ai toujours écrit à l'ordinateur. Ouais.
Avant, vous aviez une machine à écrire portative?
Même pas, j'ai commencé tellement tard, cher monsieur.
Ah oui, c'est vrai, je vois.
Ah oui, moi il y avait même...
Vous dites que vous n'avez pas de biographie, mais une mère, c'est une biographie, en fin de compte.
Alors d'abord, non, c'est pas une biographie, c'est une vie.
Non, mais je rigole, c'est une plaisanterie.
Et c'est certainement pas ma biographie. Oh là là. Vous pouvez la lire.
On trouve des repères, quoi.
Des repères de quoi?
C'est pas des repères.
Ben, il y a des... Des repères ou des repères. Par exemple, j'ai lu ces deux derniers livres-là pour cette édition.
Oui.
Une mère et histoire d'amour. Mmh. Histoire d'amour, on n'a rien du tout de votre vie. Dans une mère, il y a plein de trucs de votre vie.
Non, je dirais l'inverse. Une histoire d'amour, c'est plein de sa vie.
Ouais.
Et c'est plein de sa vie continuellement, justement. On voit à quel point, comment. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre-là. C'est que rarement on a vu à quel point. La vie est liée à la question littéraire. Comment la question littéraire il y a une imbrication complète à la fois de la question érotique, de la question artistique. C'est-à-dire, je pense que c'est extrêmement important parce que rien n'est séparé. Donc c'est sa vie complètement. Là, c'est peut-être un des livres les plus investis, les plus induits plutôt par la vie. Sauf qu'il n'y aura pas les gens friands de biographie, n'y trouveront rien. Et c'est comme aussi dans ce livre-là, il y a tout le rapport à la mythologie, à l'antiquité qui est extraordinaire parce que tout d'un coup, ce qui est considéré comme quelque chose de lointain, on voit à quel point les questions qui ont été posées à ce moment-là sont encore complètement vivantes. Et justement, le livre les rend complètement vivantes et aussi en les actualisant à la lumière et à la faveur de ce qui est en train d'être vécu.
Absolument, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane?
Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais lu, comme tout le monde d'ailleurs, les contes et légendes quand j'étais enfant. Voilà. Alors je vous fais deux remarques. Un, il y a un rapport vital pour moi Voilà. Mmh. Deux, mes deux frères ont lu les mêmes contes et légendes que moi, ils n'ont écrit aucun livre. Mmh. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas respectables, ces braves frères, et que voilà, on n'est pas du tout dans... Voilà, ça renvoie à des questions vitales, quoi. Ça renvoie pas.
C'est ça, c'est tout.
Voilà. Ouais. Alors après, on peut, je sais pas si vous voulez dire existentiel, dites existentiel, vital, biographique. On joue. Mais j'aime bien le mot vie, hein, d'abord parce que ça renvoyait à Marcel Schwab, hein, la vie plutôt que la biographie. Mais surtout parce que ça renvoyait, oui, à des intensités de vie. Voilà.
Vous êtes né en 64, 2 ans après les accords d'Évian.
Oui, bon, oui, vous m'avez demandé.
Bah oui, bah je vous ai...
Non, j'ai pas dit forcé. Ça. J'ai même pas dit ça.
Non,
j'ai
non,
même
mais
pas
bon, dit... je, c'est à ma manière, hein, je dis ça.
Ah, ouais. J'ai dit, je suis né 2 ans après les accords d'Évian. J'ai même pas donné ma date. Mais ça veut dire
quoi ? On la trouve dans une mer.
Oui, oui, bien sûr. Bah oui, on la trouve. Oui, voilà. On peut la trouver sur Wikipédia. Mais par exemple, vous m'avez demandé des éléments biographiques, et effectivement... Ben, je sais pas, il y a des choses bien plus importantes que ma petite personne privée. Moi, je suis né en 64, 2 ans après les accords d'Évian. On pourrait faire toute une analyse de ça. Mais par exemple, moi, dans mon rapport à l'existence, je n'ai pas connu de guerre, personnellement.
Oui, ben, c'est ça, mais attends, je finis ma question, Stéphane.
Oui.
Vous êtes né en 64, 2 ans après les accords d'Évian. Pourquoi cette période est une sorte de tournant, entre guillemets, dans l'histoire et dans l'histoire de France en particulier, comme vous le dites dans votre livre « Une mère ».
Ben moi, dans mon rapport, je pense que le rapport à la guerre, enfin, il y a des modifications anthropologiques qui fait que les Français, mais ma génération et les générations suivantes n'ont pas la même expérience du tout de rapport à la guerre que les gens précédents. Mais ça veut pas dire du tout que la guerre disparaît. Ça veut dire qu'on fait une autre que la société produit d'autres guerres, qu'on fait la guerre en notre nom sous d'autres formes, qu'il y a quelque chose de terrible qui... Moi, je me souviens de la guerre du Golfe, par exemple. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu la guerre quand il y a eu la guerre du Golfe. Mais parce que je sentais bien que là-bas se jouait quelque chose. On faisait la guerre pour nous. Alors, pour du pétrole, pour etc. Et en même temps, je dirais que c'est aussi une chance historique, enfin, une chance existentielle pour moi. Moi, j'ai pas connu la guerre. J'ai pas connu les carreaux cassés. J'ai pas connu... Alors... Et par rapport à certains radicaux qui jouent l'époque moderne comme un cauchemar, alors l'époque moderne elle est absolument terrible à bien des égards, mais enfin, j'ai pas souvenir que d'avoir connu moi certaines choses, voilà. Donc et que alors du coup le rapport à la guerre, la disparition du service militaire, si vous voulez pour moi, c'est pas du tout. Enfin, c'est la disparition du service militaire, mais ça veut dire que d'autres types de mobilisation des individus se mettent en place. On les requiert autrement. Alors, l'enrégimentement entrepreneurial, par exemple. Donc, certes, on ne fait plus le bidas, mais quelque part, la mobilisation générale continue. Voilà. Et je pense que dans les... moi, ça m'intéresse d'essayer de réfléchir à ça, ou de... dans l'expérience de la fiction. Je suis pas un essayiste, je pense pas. Voilà. Donc oui, je suis né 2 ans après. Ça veut dire ça. Je suis né 2 ans après et j'ai vécu dans une paix. Enfin voilà, que il faut rappeler aussi quand même par rapport à des faux, vous voyez, des faux libertaires, des faux radicaux qui nous disent qu'on vit un cauchemar totalitaire. Ouais. Non. En fait, non. Voilà,
nous, on est à ce micro, par exemple, quand même, déjà.
Comment ?
On est libre à ce micro.
Non, mais bien sûr. Alors après, je ne sais pas, moi, donner des dates... Oui.
Bah, il y a les vacances estivales en Pologne, par exemple.
Oui, alors ça, c'était... Mais ça aussi, c'est des contingences intéressantes.
Pourquoi vous êtes lié à la Pologne ?
Familialement. Une partie de ma famille d'origine polonaise, et moi, en 60, je ne sais pas, je me suis retrouvé à 12 ans, aller voir de l'autre côté.
Il faut dire pour les gens qui sont jeunes, quand on dit de l'autre côté, c'est de l'autre côté du mur.
Oui, de ce qu'on appelait le mur.
Il y avait deux blocs.
Dans une logique binaire, voilà. Donc, moi, je suis arrivé en Pologne. C'est des expériences sensibles. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ces rues-là? Bon, il n'y a pas de publicité, par exemple. Ah oui, d'accord, mais alors, il y a des... Mais alors, après, j'ai retrouvé ça, quand j'ai lu ça dans Debord, après, ça m'a fait rire. Mais moi, au départ, c'était une expérience personnelle de... Oui, il y a du spectaculaire diffus, il y a du spectaculaire concentré. C'est-à-dire que quand j'allais en Pologne, il y avait des images prolétariennes, des grandes brutes blondes qui faisaient assis sur le tracteur, etc.
Et dans donc, les restaurants, il y a beaucoup de militaires aussi en Pologne.
Oui, et surtout
c'est ça aussi.
Non, et puis il y avait à tous les ponts, il y avait un guérite avec un soldat, et quand on s'écartait de la route principale, on venait vous rechercher quand même. Enfin, voilà. Donc le totalitarisme polonais, moi je l'ai connu sous certaines formes. Alors après, vous revenez en France, ça vous fait une expérience de la gauche qui est différente radicalement des gens qui rêvent « Ah là là, de l'autre côté c'est formidable, regardez la RDA, etc. » Non, moi je ne pouvais pas, je n'ai pas pu appartenir à cette gauche, mais ça correspond à des... Alors c'est des pures contingences, j'y suis pour rien, on m'a emmené là-bas comme ça. Après, il y avait plein de, je sais pas, un monde sans eau courante. Enfin, vous vous rendez compte? Moi, je suis un enfant du plastique et de l'eau courante et du HLM. Et on m'a emmené en vacances à un endroit où il n'y avait pas d'eau courante. Et c'est une expérience sensible complètement différente. Et moi, ça m'a rendu sensible à plein de choses. Mais y compris même, la forêt, par exemple. Je comprends ce que c'était qu'une forêt en Pologne. Parce qu'il y a des forêts pas entretenues en Pologne. Alors que moi, je connaissais des forêts avec des GR, des poubelles, des petites choses bien nettes. Il n'y a que la campagne en France, il n'y a pas la nature. Et donc, brusquement, la forêt, moi, elle m'est venue par la Pologne. Et donc, après, c'est aussi tout un rapport, je ne sais pas, des mythologies. Vous voyez, la forêt, quand même, c'est un lieu opaque, c'est pas de la transparence. Voilà. Alors, on pourrait... C'est aussi pour ça qu'on s'aime bien, Annie et moi, il me semble. La forêt, on a ça en partage.
Elle en connaît quelque chose, des châteaux au fond des forêts.
Oui, oui, enfin, voilà, des bêtes, le rapport à l'animal. Moi, les animaux sauvages, j'en avais pas vu, vous voyez. C'était vraiment... Je suis l'enfant de Philippe Peur le dauphin, vous voyez. Enfin, je suis l'enfant de la télévision française. Donc voilà, alors comme ça vous arrive des choses.
Mais moi je voudrais dire ce qu'il y a de remarquable, c'est Stéphane de Guy est l'enfant de la télévision et des animaux par les dessins animés. Moi je pense que contrairement à toutes les bêtises qui se disent aujourd'hui autour de l'animal, que c'est sûrement quelqu'un qui a le plus justement rendu accessible, qui a une sorte de sensibilité à ce qu'est l'animal et quel est le rapport profond qu'on a à l'animal. Donc je pense non seulement
au livre sur le lion,
mais dans tous ces livres, et aussi la façon, par exemple, dont il regarde la peinture de la Renaissance, etc., il voit aussi l'importance que l'animal avait à ce moment-là.
Ben là, c'est dans Histoire d'amour.
Oui.
Il y a une peinture, un peintre ancien.
Piero di Cosimo,
voilà, oui, italien, oui. Et il y a des histoires d'animaux là-dedans.
Et avec les chiens, etc. Mmh. Mais c'est sûrement, aujourd'hui, je pense, que c'est une des personnes qui a le plus juste rapport et qui sent véritablement ce qui est en jeu dans l'animal. Et que ce monde-là, y compris ceux qui se réclament des animaux aujourd'hui, de l'animalité, ont complètement occulté et sont incapables de voir. Mmh.
Alors on l'a dit pour la première bibliothèque, mais vous n'avez pas été au bout après, plus tard. Avez-vous accès à une bibliothèque familiale ou municipale en choisissant librement les livres que vous vouliez plus tard?
Oui, je pense
familial,
que...
Familiale, vous avez dit non.
Ah, familiale, non, mais...
Municipale.
Municipale, oui, alors c'est... Oui, moi, je n'ai pas eu de... Mais j'avais des curiosités, j'aimais bien les livres scientifiques, j'aimais bien les livres sur le corps ou l'intérieur du corps. Alors avec une curiosité sexuelle aussi, si vous voulez, l'appareil génital, bon, tout ça, des encyclopédies de la vie. Mais d'une façon générale, sur le corps, à l'intérieur du corps, oui, ça c'est quelque chose qui m'a toujours... porté. Mais voilà, on est nourri, question sensibilité, moi. Je sais pas, j'avais, vous savez, j'ai, alors si vous voulez du biographique, je peux vous en donner, mais j'ai deux frères, alors je suis plus vieux que moi, il y en a un qui a fait médecine et l'autre qui a fait technique. Bon, moi j'étais le dernier, alors je voyais ces gens-là s'intéresser à la technique et à la science. Je lisais leurs cours, tout ça. J'aimais bien, c'était pas du tout... Mais ils m'ont apporté ça, voilà, ils m'ont apporté une espèce de... de physiologie générale, enfin je sais pas, puis aussi après les lectures consolident ça. Si vous lisez Diderot, vous pouvez pas ne pas vous intéresser à la question du corps, hein. Les bijoux indiscrets, le rêve d'Alembert, enfin que sais-je moi. Voilà. Donc, mais nous on n'était pas, moi j'étais pas la génération qui devait lire sous, parce que beaucoup de gens plus vieux que moi me disent ça, on lisait à la lampe sous les draps, les parents, on empêchait les gens de lire. Incroyable aujourd'hui de dire des choses pareilles. Il fut un temps où on était obligé d'empêcher les gamins de lire. Dingue. Mais moi, on ne m'a pas empêché du tout. On ne m'a rien censuré du tout. Je pense qu'on a les... Vous voyez, je ne suis pas un âge de la censure.
Alors, moi, j'ai toujours... moi, j'écoutais le Pop Club de José Arthur sous les draps.
Voilà, voilà. La radio se vit s'impunit. Voilà. Oui, oui, très bien. Je ne sais pas, c'est marrant. Puis, à un moment, quand je lisais... à un moment où j'ai lu ça, je me disais, c'est curieux parce que... Il y a des gens qui se sont battus pour lire, pour pouvoir lire ou publier Sade. Et moi, au moment où je l'ai lu, il était à la FNAC. Mais personne ne lisait plus. Mmh. Alors là, bon, je sais pas ce qu'il faut en conclure, mais voilà. Moi, j'ai pas eu de guerre, mais j'ai pas eu cette censure directe. C'est très difficile. Je pense qu'il y a de la censure aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus.
Ouais, c'est une censure par l'excès, plutôt.
Oui, oui, c'est ça.
Une censure par le nombre, par
ouais.
le.
Ouais, c'est ce que j'appelle l'organisation de la misère par l'abondance.
Oui, c'est ça.
Comme au supermarché.
Ah, oui.
Vous avez le choix. En deux produits terribles, hein. Terribles. Et je sais pas, il y a une. Alors, tout ça détermine des colères aussi. Hein. Mais la Pologne m'a appris la géopolitique, mettons. Là, vous en faites. Mais avec les pieds, quoi. Vous le faites avec votre corps, etc. C'est pas un débat, quoi. Encore une fois, je dis toujours que je ne suis pas un intellectuel. Hein. Tout le monde se réécrit. Oh, mais tu es cultivé. Je ne sais pas si c'est débile, quoi. Je ne suis pas un intellectuel.
Moi non plus, d'ailleurs.
Mais, vous voyez, il n'y a pas d'intellectuel. Vous direz peut-être que vous êtes un intellectuel, mais voilà, moi je ne sais pas. Non, je. Et de toute façon, voilà, c'est aussi qu'écrire, c'est un travail pour le coup. Là. Vous parliez de cuisine, ça, j'aimais bien cette image. La cuisine, ça va couper les légumes jusqu'à la chimie, bon, très bien. Là, d'accord. Ça, là, oui, on fait quelque chose, là, ça va. C'est pas indigne. On réfléchit pas à vide, quoi.
Et New York, ça représentait pour vous les deux années passées à New York ?
Là, j'ai pas passé deux ans à New York, où je me suis mal exprimé.
De 80 à 60. 86-87.
86-87, j'étais aux États-Unis. Mais j'étais pas à New York et j'enseignais. Donc, bah oui, formidable. Que vous dire J'ai lu. Non, alors ça m'a frappé.
Quand je vous ai demandé biographie, vous m'avez donné 5 dates.
Oui, je sais. J'ai
pas été gentil. Avec
voilà,
ça.
Voilà. Donc j'ai dit que j'étais aux États-Unis, etc. Mais il y a des effets paradoxaux. Moi, je me souviens que l'université de Virginie où je me trouvais, il y avait un vieux monsieur d'ailleurs qui enseignait, qui s'appelait Roger Chatuc, qui était spécialiste de pataphysique et de Proust. Et c'est l'endroit où moi j'ai pu lire l'intégralité des cahiers du Collège de pataphysique et toutes les revues confidentielles des mouvements surréalistes et autres situationnistes, etc. Parce qu'eux, ils l'avaient en accès libre. Alors personne ne les lisait, là encore. C'est-à-dire, vous aviez des universités richissimes qui avaient des collections formidables, et moi j'étais le seul à. Mais là j'ai connu une espèce d'ivresse à lire, ça je dois dire. Parce qu'on pouvait emprunter, c'est des facs richissimes, donc on pouvait emprunter autant de livres qu'on voulait. Donc, là. Et ils avaient des collections prodigieuses, quoi. Mais littéralement, je prenais des livres qui étaient neufs, qui avaient 80, 100 ans. Donc il y a quelque chose là de très, très curieux, quoi. Voilà.
C'est quoi le début de votre vie libre, entre guillemets, en 82 ?
Ah, 82, bon là, c'est très, très simple. D'abord, c'est...
Et vie libre, ça veut dire quoi ? C'est ce que vous m'avez écrit. Se débrouiller avec ça, alors moi, je me suis bien dit, c'est quoi ?
Oui, mais je pense que c'est là que j'ai compris... Parce que c'est là que j'ai compris que, pour revenir toujours à cette expression très simple, que vivre sa vie, ça a un sens, et c'est même le travail, enfin, que c'est une espèce de, d'occupation à plein temps. C'est ça que j'ai compris, là. Et puis, j'ai quitté mon milieu familial, pour le coup. Donc, et c'était quand même beaucoup plus confortable pour moi, parce que, voilà, enfin, c'était un milieu qui n'était pas très favorable à ce que je voulais être. Voilà, c'est très, tout ça est très banal, encore une fois. Hein, ça fait pas un destin, quoi. Enfin, vous voyez. Mais oui, je suis parti. Voilà. Et alors là, pour le coup, l'autre jour, je réfléchissais parce qu'on me demandait une conférence sur ce que j'ai écrit, tout ça. Bon. Et je me suis dit, mais. Enfin, je vais la faire bientôt, en fait. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qui se passe dans mes livres, en fait. Ben, dans mes livres, il y a des gens qui s'en vont. Moi, les livres, ça m'a permis de m'en aller, de déserter de certaines positions que la société me promettait, de façon de penser. C'est ça, les livres.
Vous avez un rendez-vous à donner aux auditeurs pour cette conférence ?
Elle n'est pas publique, c'est dans un cadre scolaire. Ouais, ouais. Moi, je veux pas. Les seuls rendez-vous que je donne aux auditeurs, c'est mes livres. Voilà. Le reste. Mais en fait, oui, c'est mes personnages s'en vont. Ils s'en vont.
Là, ils vivent et ils meurent. Dans Histoire d'amour, on les a en intégrale.
Ben oui, mais ils partent, ils prennent les tangentes, ou ils prennent. Mon premier roman, c'était Histoire d'un type qui, par exemple, faisait le tour du monde et revenait autre. Parce que faire le tour du monde. Et justement, il fait le tour du monde et il s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire le tour du monde.
La théorie des nuages ?
Oui, par exemple, il y avait des gens qui se barraient, quoi. Donc, les déserteurs, quand même, enfin. La désertion, il y a quelque chose d'essentiel dans la littérature. La littérature, c'est une affaire de déserteurs.
Oui, moi je pense que c'est ça. C'est des grands appels à la désertion. Parce que par exemple, à un moment, je me suis demandé pourquoi j'étais si fascinée par Sade. Parce qu'à un moment, je me suis aperçue que contrairement aux auteurs reconnus, etc., Sade était celui qui vous faisait ce cadeau formidable de vous aider à vous débarrasser des idées, des choses qu'on avait essayé de vous mettre dans la tête, que la société vous met dans la tête. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une liberté extraordinaire chez Sade et qui est contagieuse parce que il vous aide à vous débarrasser de tous les carcans idéologiques qu'on essaye de vous inculquer.
Oui. On va quand même passer, Stéphane Oudgui, à vos livres.
D'accord.
On n'a pas encore commencé.
Non, mais si, si.
Histoire d'amour, sorti dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil en 2020. Pourquoi n'avoir pas mis à ce titre d'ouvrage un S, écrit au pluriel histoire, puisque ce livre, c'est une multitude d'histoires d'amour. Il y en a une principale, je reconnais.
Parce que là, dans le cas présent, c'était... Là, pour le coup, j'ai jamais fait de vers rimés, mais pour le coup, je suis sensible aux rimes. Donc, je suis sensible à certaines résonances ou à certaines... J'aime bien l'idée qu'il y a des rimes dans le roman. Des rimes de situation, des rimes... Ça, c'est un truc que j'ai pris à Queneau, sauf que lui, on faisait un truc un peu oulipien, quoi. Mais que... qu'il y a des circulations souterraines, que les choses se répondent comme ça. Je pense que le roman, c'est un peu ça, dans mon souvenir.
Là, ce qui est intéressant, c'est peut-être les liens entre les histoires... Il y a des liens différents entre le personnage principal et chaque histoire. Un coup, c'est un rêve, un coup, c'est un dictionnaire.
Oui, il y a un rapport à la chasse aussi, éventuellement. Oui. Ben, il y a un rapport à la désertion quand même aussi. Hein. C'est quand même des gens qui prennent la tangente de l'histoire à un moment.
Le soldat, par rapport à la guerre.
Oui. Je l'aime bien, ce soldat. Mais il se réfugie. Il se réfugie sur le lac de Némi. Le lac de Némi est un haut lieu du culte de Diane. C'est un très bel endroit au sud de Rome, oui, c'est ça. C'est très très beau. Cette idée de, chasser, enfin, de chasser avec. Alors, chasser, pas évidemment la chasse au sens trophée, étalage de. Pas la chasse présidentielle, quoi, on va dire.
Mais il y a quand même la déesse qui est vraiment. Elle change d'avis après. Après, elle devient contre la chasse. Mais au début, elle aime tuer les animaux, quand même, au début, là, de cette déesse.
Oui, bien sûr. Mais c'est une histoire très étonnante, l'histoire d'Actéon et de Diane, puisque c'est rare qu'un... Enfin, c'est une histoire bizarre avec Théon, parce qu'il... Il n'est pas coupable, enfin, si on peut dire. Il y a une effraction, quoi. Il entrevoit quelque chose.
Mais il n'a rien fait pour. C'est pas... après,
voilà,
après,
c'est ça.
Après, ben, il est curieux. Voilà. Il ouvre les yeux, quoi.
Alors, c'est une bonne allégorie d'écrire des romans. On entrevoit des trucs, et puis voilà. On chasse, on poursuit des trucs. Vous voyez, on poursuit des chimères, hein, si vous voulez, dans tout le sens du mot chimère, et on essaie de voir un peu comment on va pouvoir représenter ça. Je disais pas chasse présidentielle, mais plutôt chasse en tant que... je sais pas si vous avez déjà chassé ou chassé, mais pacifiquement.
Non, jamais.
Safari photographique, que sais-je.
Non, jamais.
Voilà, une biche bondissante ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de fuyant dans l'animal, vous voyez, la fuite. Oui, c'est beau ça. Donc voilà, les gens qui s'en vont m'intéressent.
Comment est né ce livre, Histoire d'amour ? Aviez-vous une idée générale en commençant ? Vous, depuis, nous a-t-elle entraîné dès le premier mot au hasard ? Aviez-vous des notes ? Avez-vous fait des recherches historiques en particulier ? Ou tout a-t-il été écrit d'après votre mémoire ?
Oh, ça fait beaucoup de questions. Non, je ne sais pas.
La première idée de ce livre ?
Ah non, c'était le titre. Alors, au sens où histoire, vieux mot histoire, au sens plinien presque du terme, mais au sens où hérodotien, c'est-à-dire enquête. Enquête d'amour, alors vous l'écrivez en deux mots ou en un, c'est pour enquête, mais il y avait cette idée d'explorer comme ça. Non, je fais des recherches, c'est horrible comme mot, mais...
Des notes alors ?
Non, même, ben non, mais par exemple, vous mettez Piero di Cosimo, peintre de la Renaissance, dans un roman, ben, moi je suis allé voir les tableaux un peu partout en Europe. Vous voyez, alors quand est-ce qu'on écrit ? Ben oui, on va au musée d'Oxford, où il y a une chasse formidable, c'est Botticelli, la petite chasse en bois, bon, ben, bref, qu'on commence à... Mais alors ça, c'est une chose qu'il faut... Bon, là encore, c'est biographique, c'est pas intéressant, mais est-ce que les gens se rendent compte combien il est plaisant de, par exemple, d'aller à la chasse d'un roman, quoi. C'est-à-dire, moi, pendant, je sais pas, un an, je me suis promené dans toute l'Europe, mais aussi dans des musées, mais aussi dans des livres, sur des questions de la chasse. Donc j'ai chassé la chasse, comme ça. Une autre fois, je suis allé au Japon, et je me souviens très très bien que comme j'avais une idée de roman sur l'occupation américaine au Japon, ça faisait surgir des choses dans le paysage que j'aurais jamais vu en touriste, quoi. Voilà. Donc c'est une façon de vivre. Moi, je suis le seul homme, je m'en flatte, d'avoir visité le musée des travaux publics et de l'hydraulique à Kyoto 4 fois avec plaisir. Parce que ça me servait, parce que Kyoto a un rapport à l'hydraulique et aux canaux très particulier. Je sais pas, c'est vraiment des expériences amusantes et qu'on restitue aussi pour les lecteurs, mais dans l'idée d'un partage, pas dans l'idée de leur imposer, je sais pas. C'est très très plaisant ça aussi. Et moi, comme je suis professeur, j'ai toujours aimé cette transmission aussi. Voilà.
Peut-on arriver, entre guillemets, à faire passer une philosophie dans un roman, Stéphane Audguy ?
Alors, il faut demander ça à Saad. Mais pour vous répondre, philosophie, certainement pas, parce que justement, enfin, il y a quelque chose dans la fiction, dans le « on aurait dit que », dans le « il était une fois », dans l'expérience de la fiction, quelque chose qui est une expérience propre, qui n'est pas la philosophie. Moi, j'ai pas à faire concurrence à un phénoménologue ou à un existentialiste ou que... Non. Ils font leur travail, qui est un travail conceptuel autre. Le roman, d'ailleurs, l'intérêt, c'est qu'il est... Il est pas... C'est sensible et... Enfin, voilà, pas d'idée sans corps, pas de corps sans idée. Voilà. Le roman s'occupe des singularités aussi. Il était une fois, quand même, c'est... Faut entendre ça. Il était une fois, pas deux. Et cette fois-là, c'est un tel. Et cette fonction singulière qui s'adresse au singulier en chacun de nous, ça s'appelle, mettons, un personnage ou un paysage. Ou, voilà. Donc c'est plus que la philosophie, dans un sens.
À mon avis, oui.
Et c'est une expérience sensible, d'ailleurs, que beaucoup de gens se refusent et ils en meurent. Les gens lisent plus, comme on dit. Ben oui, mais faut dire qu'ils meurent aussi. C'est ça qui est terrifiant. Quelqu'un qui lit pas, ou le cinéma, si vous voulez. Moi, je suis pas corporatiste. Mais enfin, il y a des expériences là que ni la philosophie, ni la politique, ni quoi que ce soit. Et c'est peut-être même la protestation de ce qui reste. Tout ce dont les gens vous disent, c'est pas important. Oh, c'est pas ça l'important, c'est une phrase politique, ça. Hein, faisons des priorités. Ben non. Le reste, quoi, le singulier, l'individu, le voilà. Vous voyez ce que je dis. Non pas les idées, quoi. Les idées, quand on voit ce qu'elles ont donné au XXe siècle, quand même.
Au XXIe.
Non,
mais ça fait que s'amplifier.
Je le crains.
Mais non, on assiste actuellement, c'est au massacre du monde sensible.
Qu'est-ce que vous appelez le monde sensible, Annie?
Bah, tout ce dont vient de parler Stéphane.
Allez-y.
Bah, c'est aussi bien justement notre rapport aux choses, aux images, à l'espace, etc. Tout d'un coup, maintenant, tout est marchandisé. Et c'est aussi, il faut dire que là, il faut insister aussi sur la responsabilité des philosophes, en particulier des philosophes de la déconstruction, qui ont déroulé une sorte de tapis pour permettre au capital de pouvoir complètement faire son business sans il n'y avait plus de résistance. Il n'y avait plus de résistance intellectuelle contre ça. C'est pour ça que c'est si important, justement, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, et en particulier ce dont parle là Stéphane.
Ben, ce sera le mot de la fin, Annie. Je vous remercie, Annie Lebrun, d'être venue au micro de Radio Libertaire.
Merci.
Je vous remercie, Stéphane Ogui et Audguy, aussi, d'être venus au micro de Radio Libertaire.
Merci à vous.
Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez la contacter directement au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, librairie Publico, émission Démo, Une Voix. Nous allons mettre un morceau, je pense que c'est celui que vous nous avez demandé, Stéphane. Et je dis aux auditeurs, au mois prochain, il y aura une rediffusion avec, avant l'émission, une demi-heure d'un DJ. Avant nous, parce qu'il n'y a pas d'émission avant nous. Donc l'émission commencera à 15h et elle finira à 17h. Et Démo Une Voix commencera à 15h30. Je vous remercie, au mois prochain. Au revoir.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire, se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. Je me cache sous la table, le chat me griffe un peu, ce tigre est indomptable et joue avec le feu. Les pantoufles de grand-mère sont mortes avant la nuit. Dormons dans ma chaumière, dormez, dormons sans bruit. Berceau berçant les violes, un ange s'est caché dans le placard aux fioles où l'on me tient couché. Remède pour le rhume, remède pour le cœur, remède pour la brume, remède pour le malheur. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La vie, la mort, l'espoir et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés, et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. J'ai pas aimé ma mère, n'ai pas aimé mon sort, n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
Donne à ceux qui sourient et qui ont bien le droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour parler du bon temps.